Plus je réfléchis à ce que pourrait être une politique girardienne, et plus j'en reviens aux paroles que le prophète Osée met dans la bouche de Dieu et qui sont reprises dans l'évangile selon Matthieu en ces termes, allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce serait alors une action politique qui renoncerait à la violence dans les rapports humains et s'accommoderait du dépérissement des institutions qui l'ont jusqu'à présent contenu. Plutôt que de définir un programme politique, mieux vaut sans doute s'en tenir ici à l'exposition de quelques principes sans éluder leurs difficultés. J'en énoncerai six, sachant qu'il y en a sans doute plusieurs autres que vous pourrez d'ailleurs à l'occasion m'indiquer lors de notre conversation. Mais attention, il ne pourrait s'agir en définitive que d'un processus éducatif qui s'appuie sur la famille, la formation tout au long de la vie, l'information et la culture. Ce serait, comme toute utopie, un système totalitaire qui contraindrait ses membres avec l'espoir que la vérité les rende libres, comme en Jean 8, 32. Il s'opposerait orthogonalement à la liberté permise par l'économie de marché qui tolère, voire encourage, la tromperie. Et il est probable que le pouvoir requis pour conduire à ces massives conversions soit la source d'abus, comme cela a toujours été le cas par le passé. Alors, la première suggestion ou le premier principe que je veux vous indiquer, c'est pour moi, il faut admettre que l'égalité n'est pas la solution, mais une contrainte supplémentaire. L'égalisation des conditions, cette tendance tôt repérée par Tocqueville, n'éteint pas la rivalité. Au contraire, elle tend à l'attiser. Tocqueville est en quelque sorte le principal politiste de la théorie mimétique, même s'il écrit son œuvre un siècle et demi avant celle de Girard. Dès 1961, dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, Girard reprend la fameuse formule de Tocqueville qui introduit son propos en 1835. Je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations devaient aboutir. Fin de citation. L'égalité est source d'inquiétude pour Tocqueville, de désirs qui ne peuvent être satisfaits durablement et de rivalités sans fin. Je cite à nouveau, ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns, de leurs semblables, ils rencontrent la concurrence de tous, la borne a changé de forme plutôt que de place. Tocqueville a défini avant la lettre ce que Girard appelle la médiation interne, en indiquant que, je cite encore, le désir de l'égalité devient toujours plus instable à mesure que l'égalité est plus grande. Fin de citation. Il introduit la dynamique de ce que j'appelle personnellement la revendication d'une égale puissance d'être. Et si elle peut être et doit être une fin, cette égalité, il n'y a pas de préférence pour les hiérarchies sociales chez Girard. L'égalité n'est donc sans doute pas un moyen d'une politique de réconciliation. Ou alors il faut la concevoir comme un ensemble d'identités différenciées. En cela, une utopie girardienne se distinguerait de celle de Thomas More, lequel considérait que, je cite, l'unique moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice, et de constituer le bonheur du genre humain, c'est l'abolition de la propriété. Tant que le droit de propriété sera le fondement de l'édifice social, la classe la plus nombreuse et la plus estimable n'aura en partage que disette, tourment et désespoir. Le réalisme historique de Girard lui fit en effet douter de l'espérance manichéenne égalitaire des premiers chrétiens reprise par saint Thomas More et de l'idéal communiste. La rivalité est paradoxalement le fait des égaux et des proches, plus que des distants socialement et des éloignés géographiquement. Or, c'est bien un désir qui n'induit pas la rivalité qu'une politique inspirée de la pensée girardienne devrait rendre possible. Le deuxième principe que je propose, c'est de rapprocher, là c'est une reprise directe de Girard, remplacer l'approche des sciences politiques par celle de l'anthropologie. L'anthropologie politique serait cette part de la science des rapports humains à laquelle Girard aspire et qui, partant du constat historique d'une violence toujours sur le point de se répandre par contagion mimétique, chercherait à déterminer les conditions de la coopération des grands groupes humains et de leur assemblée générale, à savoir l'humanité. Évitant les deux écueils maximalistes, la recherche du gouvernement idéal, et minimalistes, les techniques de conquête et de conservation du pouvoir allant jusqu'à la contrainte sur les corps, elle restreindrait son ambition à la garantie de la pérennité de l'humanité. Mais contrairement au politique, à l'économique ou au religieux pris chacun isolément, elle étendrait son ambition au maintien de tous les équilibres vitaux, y compris entre l'humanité et sa terre nourricière, entre les générations présentes et futures, entre les contraintes du vivre ensemble dans un espace et un temps limité. Sauf ambition totalitaire, l'État-nation n'a ni cette capacité ni cette volonté. Quant à la foule, elle ne parvient pas davantage spontanément à les définir, les atteindre et a fortiori les maintenir. Seule une élévation de la connaissance et de la conscience peut entretenir l'espoir d'y parvenir. Cette anthropologie aurait donc pour objectif périlleux de dissiper le voile de méconnaissance qui nous entoure et qui, il faut le reconnaître, a toujours été la condition des succès des institutions en charge de contenir la violence. Pour qu'elles fonctionnent, il est nécessaire que nous n'ayons pas une connaissance claire de leur fonctionnement. L'anthropologie devrait alors servir de garde-fou aux dérives totalitaires qu'une politique visant à transformer en profondeur les rapports humains engendrerait inévitablement. Troisième principe, c'est ne pas s'estimer comme appartenant au camp du bien. Il y a en pratique aujourd'hui deux façons principales de se croire dans le bon camp. Avoir des aspirations sincères de justice ou se poser comme victime du camp adverse. Or, la pensée girardienne nous met en garde contre de telles attitudes que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Même si nous sommes particulièrement bien intentionnés ou effectivement victimes d'injustice, nous sommes tous responsables et coupables. Peu importe à quel degré, la reconnaissance à laquelle nous invite le désormais bien nommé sacrement de réconciliation est à la base de ce que serait une politique de miséricorde. Un seul exemple suffira. Les revendications victimaires des coloniales, fondée sur la traite négrière d'esclaves noirs organisée par les puissances européennes à partir du XVIe siècle, ne devraient pas exclure de leur champ l'esclavage antique, le commerce arabo-musulman des esclaves, les luttes entre tribus africaines qui ont fourni à peu de frais les armateurs en cargaison humaine, le rôle singulier de la chrétienté dans l'abolition, dans certaines conditions, de l'esclavage antique. Bref, toute réconciliation doit prendre appui sur une vérité historique complexe qui montre que si les responsabilités sont plus importantes, il n'y a ni victime pure, ni persécuteur exclusif. Pour sortir de l'impasse des conflits, il convient donc que chaque partie reconnaisse au préalable sa part de responsabilité face de l'issue pacifiée à un objectif partagé. C'est en fait une mimésis de la responsabilité qui est la condition d'une possible réconciliation. L'injonction de se réconcilier d'abord avec son frère, chez Matthieu, par exemple, 5.34, est présentée comme un préalable à l'offrande, donc à la sollicitation de Dieu. Mais il s'agit d'une évolution radicale par rapport aux mécanismes sacrificiels qui ont été jusqu'à présent les principaux vecteurs de réconciliation. Quatrième principe, médiatiser le désir pour le désintoxiquer. Dans un de ses paradoxes, Girard énonce que seul le désir mimétique peut être libre, vraiment humain, parce qu'il choisit le modèle plus encore que l'objet. Dans Achever Clausewitz, Benoît Chantre propose à René Girard le concept de médiation intime pour dépasser les menaces apocalyptiques que la médiation interne fait peser sur l'humanité. Échapper au mimétisme semble l'apanage des saints et des génies qui, ayant renoncé à la tentation ironique, s'identifieraient à celui qui aura été le Christ, donc l'autre devant lequel on s'efface mais aussi qu'on tient à juste distance. Mais ce libre choix est privé d'alternative. Le seul modèle qui vaille est alors Jésus-Christ ou ses disciples. Il faudrait dès lors que les rapports humains soient régis par le dixième commandement. L'interdit de la convoitise, tel qu'il est analysé, dont je vois Satan tomber comme l'éclair, et par le commandement nouveau de l'amour. Alors, si le projet est de désintoxiquer le désir en le médiatisant correctement, il me semble toutefois que l'admiration mutuelle serait une juste position en ce qu'elle n'est ni indifférence qui empêche les rapports, ni aspiration à l'appropriation et a fortiori à la dépossession de l'attribut qui fait de l'autre une personne avec laquelle entretenir des relations. Le qualificatif de mutuel vient quant à lui traduire que de telles appréciations favorables ont permis une relation saine entre les partenaires. L'admiration mutuelle produit ainsi des rapports de réciprocité asymétriques et cela est très important car l'égalité risque de conduire à la rivalité, ce que la symétrie permet en général d'éviter. Les relations de maître à élève ou de parent à enfant en sont de bons exemples lorsqu'elles ne dysfonctionnent pas, bien entendu. Cinquième principe, déprivatiser ce qui relève du bien commun. Pour Girard, la rivalité est née du caractère non partageable de certains objets du désir, comme un être aimé, une œuvre d'art unique, un territoire convoité par deux peuples, un pouvoir, un monopole sur un marché ou sur une vérité de foi, etc. L'appropriation par l'un en prive les autres, mais d'autres biens sont aussi à mettre en commun parce qu'écologiquement à ne pas partager. Quant aux dommages que nous leur faisons subir, ils sont, eux, à partager dans l'espace avec nos contemporains et le seront dans le temps avec les générations à venir. Le prochain paradigme devra donc repartir du non-partageable, du non-appropriable, voire de l'irrémédiable, le terme de commun tend à désigner ce type de bien. La préservation de la vie sur la planète et de ses ressources, de même que le traitement égal des humains, quel que soit l'héritage culturel dont ils peuvent se prévaloir, exige un retour à une structure de pensée manichéenne faisant de la pérennité de l'œcumène le bien suprême auquel sacrifier le présent et la tentation de jouir sans délai des opportunités offertes aux contemporains, qui deviendrait alors le mal à contenir. Pour le dire simplement, suivant l'intuition écologique, le bien commun devrait comprendre l'eau, l'air, la terre et la biodiversité nécessaires à la préservation de la vie sur notre planète nourricière. Et il faudrait y ajouter le savoir, outil de protection, mais aussi de destruction de ces éléments. Le savoir historique partagé étant de surcroît la condition préalable à toute réconciliation entre les communautés et à toute politique de la miséricorde. Dernier principe, il s'agirait pour moi de refonder la famille. Donc, la dernière recommandation que je ferai à tout promoteur d'une politique de miséricorde est de s'intéresser à l'institution familiale. La famille a probablement été la première des institutions en charge de contenir la violence, avant même le religieux, le politique l'économique. L'amour maternel, cette sublime promesse de l'aube, l'interdit de l'inceste comme la préférence pour les formes plus ou moins exigeantes de l'exogamie en atteste. Elle reste le lieu principal de l'éducation et un refuge face aux aléas de l'existence. Elle est l'unité de base de toute société. Les rêves égalitaristes de séparation précoce des enfants de leurs parents, de Platon au communisme comme réalité, n'ont jamais apporté la preuve d'une quelconque supériorité sur la cellule familiale. Dans un monde où religion politique et économie de marché montrent leurs limites, la famille reste l'institution de l'adaptation aux circonstances de la vie la plus performante. Mais la famille, organisée depuis les origines sur la base des liens de domination, a été considérablement déstabilisée par l'égalisation des conditions et reste un lieu où s'exercent toutes sortes de violences qui sont de nos jours de plus en plus visibles. Rappelons-nous une fois encore la petite apocalypse de Marc. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Si l'on en croit les statistiques, les homicides se commettent en pratique majoritairement dans le cadre familial. L'évangile de Marc omet simplement que les femmes sont les victimes les plus nombreuses. Un des progrès de notre époque est de l'avoir admis. Selon quelle modalité refonder l'institution familiale, je dois vous avouer que je l'ignore. Et je doute que la parole du Christ relatée dans Matthieu 5, 23-24 nous fournisse une procédure très aisée à mettre systématiquement en œuvre. Si donc, je cite, « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » En conclusion très rapide, nous n'échapperions donc à notre habituel catéchone, à notre persévérance dans l'être civilisationnel, qu'au risque d'une apocalypse douloureuse. Quant à l'utopie dont je viens d'esquisser quelques principes, est-elle souhaitable et réaliste compte tenu de ce que nous savons de l'humanité et de ses modes de fonctionnement depuis la fondation du monde ? Comme vous l'avez compris, je ne vois pas personnellement à ce stade comment une politique de miséricorde modérée pourrait nous abstraire de la réalité des intérêts concurrents. Ne reste alors que l'espérance dans la parousie qui suppose que le Christ revienne et que cette fois, il nous mette tous d'accord. Y croyez-vous ?